Tu avais bien dit, c'était bien Épaphrodite qui avait apporté les dons. C'est un détail, mais tu avais bien trouvé. Alors bonsoir à tous. Et ce soir, j'aimerais donc inaugurer une petite série, comme on fait entre moi et Jean-Alain. Et là, c'est sur la persévérance. Et donc aujourd'hui, nous allons voir la persévérance dans la volonté de Dieu. Et il y aura d'autres messages sur la persévérance dans la prière, persévérance dans l'amour fraternel et la persévérance dans les épreuves. Ça, ce sera la semaine prochaine, Dieu voulant. Et donc, si vous voulez prendre votre Bible et l'ouvrir en Hébreux 10, 36, Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, chapitre 10, verset 36. Et nous lisons, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Voilà. Et ici, Dieu nous dit, vous avez besoin, vous les croyants, de persévérance. Alors, nous sommes dans un monde où la persévérance n'est pas toujours mise en avant. On est dans le monde de l'instantané et de l'éphémère. Si on fait le compte, c'est incroyable le nombre de choses qui doivent être faites rapidement. On a les fast-food qui sont arrivés, hein, où il faut manger en 5 minutes, avaler un Big Mac et des frites. Vous avez le café instantané, c'est-à-dire vous versez l'eau, ça y est, vous avez votre café, il n'y a plus besoin de le faire torréfier, de le faire couler lentement dans une cafetière. Évidemment, ça n'a pas toujours le même goût. Vous avez les repas surgelés. Hein, dans le micro-ondes, terminé, 5 minutes, vous avez votre plat tout prêt. Évidemment, ça n'a pas le même goût qu'un repas gastronomique. Vous avez même malheureusement le speed dating, ils n'ont même pas pris la peine de traduire, hein, c'est-à-dire les rencontres rapides. En 7 minutes, vous allez dans un café, vous vous présentez à des femmes et des hommes pour essayer de faire une rencontre totalement improbable. Vous avez la fibre optique qui accélère toutes les données partout. Je me souviens quand on avait les premiers modems avec nos ordinateurs qui faisaient ce bruit-là, et pour ouvrir un site internet, il fallait 5 minutes. Aujourd'hui, s'il ne met pas 5 secondes, s'il met pas 1 seconde, on dit mais ça traîne. Tout est pressé. Il y a la 4G, on était dans la 2G, la 3G, la 4G, et à quand la 8G pour les téléphones, hein, la parole arrive avant que vous l'ayez prononcée. Le TGV aussi dans les G. TGV qui va de plus en plus vite, tout va de plus en plus vite, tout est instantané. Et puis, même dans les mœurs de notre société, il y a beaucoup de papillonnage, beaucoup de choses où on ne s'arrête plus, on ne persévère plus forcément. Je pense là aussi un drame de nos sociétés, sont les divorces, le fait que, ou le fait de ne pas se marier même, c'est-à-dire on va avec quelqu'un et puis, bon, bah, écoute, ça fait 3 ans, je pense que c'est suffisant, on va passer à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Et cette forme de papillonnage qui empêche de construire des familles solides, même dans le travail, avant, on restait dans une entreprise 20 ans, hein, on s'engageait, on disait, voilà, je sortirai pour la retraite. Aujourd'hui, vous changez de job tous les 3 ans ou tous les 4 ans à peu près, hein, c'est le rythme de beaucoup de gens. On change même de pays plus facilement qu'avant, et on a tendance justement à aller un peu d'un pays à l'autre, mais tout ça n'est pas forcément bénéfique. C'est extraordinaire, on est dans une société extraordinaire, une technique fantastique, mais au fond, ça nous empêche parfois d'être persévérants dans les choses. Et malheureusement, la chrétienté suit les tendances de la société. Il y a les chrétiens qui changent d'église tous les quelques, c'est-à-dire ils vont dans une église, puis ils disent, bon, ben là, ça fait 2 ans que j'y suis, je vais aller dans une autre. Ça se fait beaucoup dans les pays où il y a un grand nombre d'églises où on a le choix. Je connais donc un peu les États-Unis, où quand vous avez, dans un quartier, vous avez 5 ou 6 églises, même plus, évangéliques, vous pouvez choisir. Vous dites, tiens, celle-là, elle est pas mal. Là, ils ont une super chorale. Ah, mais là, par contre, ils ont un café à l'entrée quand tu rentres. Tu peux boire ton café avant d'aller au culte. Mais là, ils ont un programme pour les enfants. Où est Dieu dans tout ça? On ne sait pas exactement, mais ça pousse les chrétiens à papillonner aussi, à changer d'église, plutôt que de s'attacher quelque part, de s'engager. Et puis, les missionnaires même deviennent des missionnaires à court terme. Les temps passés, bon, je ne veux pas faire l'apologie du passé, hein, le passé n'est pas forcément meilleur que le présent, mais dans le temps, en tout cas, c'est un fait, les missionnaires restaient très longtemps dans un pays, et souvent, les missionnaires américains en particulier, devaient rester 4 ans dans le pays étranger avant de pouvoir retourner chez eux voir leur famille. Donc c'est tous les 4 ans, ils avaient un droit de retourner dans leur pays. Bon, pourquoi 4 ans? On considérait que c'était suffisant. Il faut dire aussi que les avions n'étaient pas aussi nombreux, hein. Même des fois, ils allaient en bateau. Mais aujourd'hui, même la mission est à court terme. C'est-à-dire, je vais faire quelques mois dans ce pays, ou même quelques semaines, on va être à fond. Puis après, on va retourner tranquille dans son pays. Et la mission, ça prend du temps. La mission, c'est vous baptisez des églises, vous plantez, vous apportez l'évangile. Vous devez apprendre la langue, ça ne se fait pas en 6 mois ou en 2 ans. Il y a aussi le mouvement de croissance des églises. C'est une sorte de marketing religieux, une philosophie du ministère chrétien évangélique, dont le but est de faire grandir les églises. Alors c'est bien de faire grandir les églises, d'avoir du nombre, mais c'est à tout prix. C'est-à-dire, il faut que votre église... En 3 ans, qu'elle ait atteint au moins 1 000, 2 000 personnes. Si vous n'avez pas atteint ce chiffre, vous êtes un échec, vous avez raté. Et donc, il faut des techniques qui soient mises en place, une façon de faire les réunions, une façon de s'habiller, et surtout pas de cravate. La cravate est interdite pour avoir une église qui grandit. Vous avez des pasteurs qui font le sermon en été en short et en t-shirt hawaïen, en chemise hawaïenne. Personnellement, ça me choque. Je me dis, s'il veut être en vacances, qu'il aille en vacances, mais... Et bon, nous sommes dans un nouveau monde, hein, n'est-ce pas? Nous sommes dans un nouveau monde et tout va plus vite et la persévérance n'est pas mise en avant. Les facilités de notre vie moderne, nous qui vivons en Occident, hein, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde, nous endorment souvent. Et on voit des chrétiens moins fermes, moins solides, moins persévérants. La persévérance, oh, c'est dur, on a du mal. Alors c'est pour ça que Dieu dit ici, vous avez besoin de persévérance. Et c'est vrai dans tous les temps de toute façon. Hein. La persévérance n'est pas quelque chose de naturel dans l'homme. On a besoin d'être encouragé à persévérer. Il faut un encouragement. Alors dans la Bible, il y a plusieurs mots pour définir la persévérance. Alors je ne vais pas vous dire les mots exacts, mais il y a un mot hébreu et un mot grec. Puisque l'Ancien Testament a été rédigé en hébreu et le Nouveau Testament en grec à l'origine, hein, donc ce sont les langues originales de la Bible, sont deux mots qu'on a traduits par persévérer et qui ont pour racine la force. Et on va essayer de comprendre comment la Bible définit la persévérance à travers ces mots. La force, une idée d'être ferme, d'être fort, de ne pas lâcher. On trouve par exemple le mot grec dans le livre des Actes, si vous avez toujours votre Bible, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Actes 1, verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, ce mot-là qui est utilisé est un mot qui a pour racine la force, la fermeté. Ils restaient fermes dans la prière, ils ne s'arrêtaient pas de prier, hein, parce que Jésus leur avait dit, je vais partir et vous attendez que le Saint-Esprit vous soit donné, vous attendez dans la prière, jusqu'à ce que... Ils ont été fermes dans la prière. En hébreu, c'est pareil, c'est la même idée, mais il y a d'autres mots en grec. Et c'est ça qui est intéressant quand on étudie la langue originale de la Bible, c'est que si, en français, il peut y avoir un mot, persévérance, et en grec, il va y en avoir 4 ou 5 qui ont la même idée, mais qui ont des variantes. Et ça donne une richesse à la Bible et au texte biblique. Les autres mots grecs, il y en a un qui veut dire littéralement « rester dessous ». C'est ça la traduction littérale. Et Louis II, qui a traduit nos Bibles, a mis « persévérer ».« Rester dessous », pourquoi ? Il y a ce mot, ben ça veut dire on reste sous la difficulté, on est sous l'orage, sous les problèmes, sous les épreuves, et on reste, hein, on lâche pas, on continue, malgré ce qui nous tombe dessus. C'est ça, cette forme de persévérance, on reste dessous. C'est traduit aussi par patience. Il y a un autre mot, et pardon, on le trouve très souvent resté dessous, 31 fois dans le Nouveau Testament. Il se trouve par exemple en Romains 12, 12. Donc c'est après les Actes, si vous étiez resté dans les Actes, c'est le livre suivant. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Voilà. Persévérez, restez dessous. Restez dessous. Il y a un autre mot aussi qui veut dire, littéralement, se tenir. Voilà. Et qui est traduit par persévérer ou par d'autres choses, mais ça veut dire aussi persévérer. C'est-à-dire, on tient. On ne lâche pas. C'est une expression qu'on entend beaucoup sur les radios et à la télévision. Je ne lâche rien. Hein, il y a des expressions comme ça à la mode où les gens le disent, les jeunes le disent, je pense. On ne lâche rien. Mais j'aime bien cette expression parce que ça veut dire on ne se relâche pas, on n'abandonne pas, on ne lâche rien, on continue jusqu'au bout. Et c'est un peu ça l'idée du mot suivant. Et il se trouve par exemple en Colossiens chapitre 4 verset 12. Il y a pas mal de versets ce soir. C'est une étude biblique, donc on est dans la Bible. Colossiens, chapitre 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. C'était le pasteur là de Colosse, l'évangéliste. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. D'après vous, où est ce mot-là dont je parle? Tenez bon, hein, afin que vous teniez bon. On ne lâche pas. Un autre mot, et en fait, c'est un mot avec plusieurs déclinaisons, plusieurs variantes, et littéralement, on dit rester. C'est le verbe rester, mais qui est modifié pour donner l'idée de persévérance. On le trouve, par exemple, en Actes 14, 22. Actes 14, 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Donc vous voyez, en français, vous avez un même mot, persévérer. Mais en grec, en fait, derrière se cachent différents mots grecs avec des petites nuances. Là, c'est l'idée, vous restez dans la foi. Vous ne vous écartez pas, vous ne vous éloignez pas, vous ne vous laissez pas troubler, vous restez, vous persévérez. Un dernier mot dont j'aimerais parler, qui est traduit plus souvent par patience d'ailleurs. Et littéralement, ce mot veut dire en grec longue colère. Une longue colère ou une longue passion. Alors, c'est vraiment bizarre, hein. Pourquoi c'est traduit patience? Mais c'est les mystères des langues, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est pas l'idée de colère, de se mettre en colère, c'est l'idée de force, de vigueur, de ferveur longue, de rester longtemps dans une passion, dans une colère, dans quelque chose de fort. Et c'est traduit parfois par persévérance. On voit ça en Hébreu 6, 15, par exemple. Ce mot apparaît là. Hébreu 6, 15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Voilà. En français, vous avez persévéré, mais en grec, c'est un autre mot qui veut dire avoir une longue colère, c'est-à-dire qu'il a tenu longtemps, il a gardé longtemps la promesse. Si vous connaissez un peu l'histoire d'Abraham, hein, Dieu lui avait promis un fils, alors que la situation était impossible, il ne pouvait pas, il était trop vieux, il y avait la stérilité de sa femme, etc. Et après des années, il a eu ce fils. Mais il a fallu qu'il attende près de 20 ans. Il a fallu qu'il tienne longtemps. Il a fallu qu'il persévère dans le sens, dans l'attente. Ça, c'est très particulier, persévérer dans l'attente. C'est la patience, bien sûr. Voilà, je ne vous embête pas plus avec les mots grecs et hébreux, mais ça nous permet de définir un peu ce que la Bible veut dire par persévérance. C'est cette capacité à tenir ferme contre vents et marées, à ne rien lâcher, à supporter l'opposition, à ne pas se décourager, à ne pas baisser les bras et à aller jusqu'au bout. D'ailleurs, l'expression « baisser les bras » vient très probablement de la Bible. parce que dans l'Ancien Testament, Moïse, à un certain moment, priait pour la victoire d'Israël contre les ennemis qui les attaquaient, les Amalécites, et les Juifs prient avec les mains levées, hein, comme ça, en regardant vers Dieu. Et donc Moïse priait pour les soldats qui se défendaient en bas et qui luttaient contre les Amalécites. Et à un moment, c'est fatigant d'avoir les bras en l'air. Alors, il a commencé à baisser les bras. Et il y a deux hommes qui sont venus soutenir ses bras pour qu'il continue à prier. Et très probablement, on n'a pas réussi à trouver une preuve absolue, mais c'est quand même, je pense que ça vient de là. L'idée de baisser les bras, ben, ça veut dire j'arrête, je ne fais plus l'effort, je ne prie plus, je n'avance plus. Hein. Et de la même façon, persévérer, c'est ne pas baisser les bras, c'est aller jusqu'au bout dans la foi, hein, et dans l'obéissance. Alors, il y a des versets un peu troublants quand on les voit pour la première fois au sujet du salut. J'aimerais qu'on les voit pour qu'il n'y ait pas de confusion ou de crainte. Le premier se trouve en Matthieu 24, 13. Matthieu 24, 13. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » On trouve l'équivalent de la parole de Jésus, là, en Marc 13, 13, ne cherchez pas, hein, et en Luc 21 aussi. Je vais vous lire Luc 21, 19. Il ne se perdra pas un seul de vos cheveux, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alors, quand on voit ces paroles de Jésus, on dit, alors, pour être sauvé, il faut que je persévère jusqu'à la fin. Ça veut dire que si je ne persévère pas jusqu'à la fin, je ne serai pas sauvé. Donc, quand on lit la première fois ces versets, on se dit, ben, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que s'il faut que je persévère jusqu'à la fin, et plus on réfléchit à la chose, qu'est-ce que ça veut dire persévérer jusqu'à la fin si on le prend dans ce sens-là? Ça veut dire ne pas quitter la foi et même allons jusqu'au bout, ne pas pécher. Persévérer jusqu'à la fin, ça veut dire « je ne pêche plus jusqu'à la fin, puisque le péché me condamne ». Est-ce qu'un être humain est capable de ne plus pécher jusqu'à la fin de sa vie? La Bible dit « il n'y a pas de juste hein, », ou « celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il se trompe ». Donc, si c'est ça que Dieu nous demandait, ce serait très, très, très dur, pour ne pas dire impossible. Et l'image qu'on peut donner, c'est imaginer que lorsque Dieu a parlé à Noé, il a dit « je vais faire pleuvoir sur la terre, tu vas construire une arche, hein, tu vas construire un vaisseau qui va permettre de sauver des animaux et des hommes ». Et donc Noé entre avec sa famille, puisque personne d'autre ne voulait rentrer avec lui. Dieu ferme la porte, dit la Bible, et la pluie tombe, et les sources d'eau jaillissent, l'eau envahit tout. Et là, Dieu dit à Noé, « Noé, eh bien, maintenant, tu vas t'accrocher au bastingage, et si tu tiens jusqu'à la fin du déluge, tu seras sauvé. » Vous imaginez la promesse, là, de Dieu? Tu t'accroches au bastingage et tu lâches pas. Alors, vous avez des vagues qui vous viennent dessus, vous avez l'eau. C'est-à-dire, au bout d'un quart d'heure, vous lâchez, vous n'y arrivez plus. Ce n'est pas ce que Dieu a dit à Noé. Il a dit, tu vas entrer dans l'arche, et Dieu a fermé la porte. Et il était absolument à l'abri dans cette arche, dans ce vaisseau. Et cette arche, quand même, est symbolique de Jésus-Christ. Nous sommes en Christ quand on a cru en lui, quand on est sauvé. Et donc, Dieu ne nous dit pas, accroche-toi à Jésus, si tu ne t'accroches pas jusqu'à la fin, tu vas en enfer. Non, il dit, vous êtes en Christ, donc on n'a pas à craindre ou à persévérer pour être sauvé. Mais alors, si on n'a pas à persévérer, qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus dit « celui qui persévérera jusqu'à la fin ». Et c'est ça le danger de prendre un verset comme ça tout seul. Un verset n'est jamais tout seul. Un verset, il a un contexte. Voilà. Tout à l'heure, notre frère nous a rappelé le contexte du verset qu'il a lu, hein, et savoir pourquoi c'était écrit, à quelle occasion. Et c'est important de prendre les versets dans un contexte. Quand Jésus dit « celui qui persévérera jusqu'à la fin », il est en train de faire son discours sur la fin des temps et sur son retour glorieux. Ce sera une période très particulière qui est mentionnée dans la Bible comme la grande tribulation qui durera 7 ans, où l'antéchrist, hein, l'ennemi de Christ, va régner et persécuter les croyants. Il dit donc, vous serez haïs, vous aurez, vous qui croyez, hein, qui vivrez à cette époque, vous serez haïs, il y aura des choses terribles qui vont se passer, et il faudra persévérer jusqu'à la fin. Et là, dans ce contexte, hein, ça voudra dire jusqu'à l'arrivée, persévérer jusqu'à l'arrivée de Christ. Il faudra tenir le coup contre les persécutions. L'antéchrist demandera aux hommes de porter une marque pour pouvoir acheter ou vendre quoi que ce soit. Il faudra être marqué du sceau 666, hein, le nombre de l'antéchrist. Donc les chrétiens devront dire non, mais ça veut dire qu'ils ne pourront plus ni acheter ni vendre. Je ne sais pas si vous réalisez l'implication pour votre vie, si vous ne pouvez plus rien acheter ni vendre. C'est-à-dire vous n'avez plus d'argent, plus de carte bleue, plus de moyens de paiement. Donc vous êtes en dehors de la société, vous êtes obligé de vivre de cueillettes et de champignons et de chasse, hein, et encore. Et les chrétiens devront persévérer, et beaucoup d'entre eux seront tués carrément, hein, pour leur foi. C'est-à-dire du moment où vous dites « moi je crois en Jésus-Christ », lorsqu'on vit à cette époque, c'est quasiment la mort assurée. Voilà. C'est ce qui s'est passé au début de l'Église, hein, de la chrétienté, lorsque les empereurs romains se sont mis à persécuter les chrétiens. Le fait de devenir chrétien, ça vous condamnait à mort quasiment, dans certains lieux. Hein. Vous saviez que, quelque temps plus tard, on allait vous arrêter, vous torturer souvent, et vous exécuter de diverses manières. Et il y a des récits très poignants de martyrs chrétiens. Des femmes, des enfants étaient tués, pas seulement des hommes, et qui tenaient bon jusqu'au bout. Voilà. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est sauvé. Il ne parle pas du salut personnel, du salut de l'âme, il parle du salut à la fin de cette époque-là, lorsque Christ reviendra. Tout le reste de la Bible et du Nouveau Testament nous dit que le salut a été payé par Jésus-Christ, notre Sauveur, à la croix. Et que si je crois en Jésus, je suis sauvé une fois pour toutes. Par exemple, je vous lis Hébreux 10, 10. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc c'est pas il faut se ressanctifier tout le temps ou il faut persévérer. Il dit vous êtes sanctifiés, vous qui avez cru, une fois pour toutes. Et j'aime bien cette expression. On n'a pas à recommencer. C'est pour ça d'ailleurs que dans les églises protestantes et évangéliques, nous n'avons pas la messe. La messe, c'est le fait d'offrir le corps de Jésus, hein, et le sang de Jésus sur l'autel. Donc, dans une église catholique, vous avez un autel avec dessus l'hostie et le vin, et l'hostie est changée miraculeusement par le prêtre, c'est ce qui est enseigné, hein, je ne le crois pas, en corps de Christ, et le vin est changé miraculeusement en sang de Christ. Et donc, chaque dimanche ou chaque messe, le prêtre offre le corps de Jésus pour les péchés des croyants. Nous croyons que cette offrande a été faite une fois pour toutes lorsque Jésus est mort sur la croix. Nous n'avons pas à refaire cette offrande. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de croire. Par contre, nous avons à refaire le repas du Seigneur. Jésus a dit, hein, faites ceci, donc prenez le pain là, sans le vin et le vin, en mémoire de moi. C'est-à-dire nous devons avoir ce pain et ce vin en souvenir pour nous rappeler que Jésus a fait cette offrande, mais pas pour recommencer l'offrande. Elle a été faite une fois pour toutes. Donc une fois par mois, ici, hein, nous avons le repas du Seigneur le dimanche matin, le premier dimanche, pour se rappeler ce que Christ a fait pour nous. Donc ce soir, j'aimerais terminer avec cette idée que Dieu nous appelle à persévérer dans l'obéissance à sa volonté. Je relis Hébreux 10, 36 que j'ai lu au début. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La persévérance est une qualité essentielle pour être un bon disciple de Jésus-Christ. Un bon disciple, c'est quelqu'un qui persévère, quelqu'un qui avance, qui ne s'arrête pas, qui continue. Et on a besoin de cette persévérance. La persévérance amène la possibilité de bâtir quelque chose, de construire, d'édifier. La persévérance permet de grandir dans la foi. Si je ne persévère jamais, je ne grandis pas. Il y a des chrétiens, ça fait 30 ans qu'ils ont cru, et ils sont toujours au même niveau. Parce qu'ils n'ont pas persévéré, ils n'ont pas été plus loin, ils n'ont pas cherché à avancer. La persévérance permet d'obtenir des victoires. Souvent, nous ratons les victoires du Seigneur parce que nous n'avons pas persévéré. C'est-à-dire, la victoire était là à 50 mètres, et nous, on s'est arrêté, on est, je suis fatigué, bon, je repars. Mais la victoire était là. Tu l'as raté, tu n'as pas persévéré. Et un chrétien qui persévère obtient des victoires dans sa vie, des magnifiques victoires. De la même façon, le manque de persévérance fait qu'on a peu de fruits. Quand vous ne persévérez pas, vous n'arrivez pas à bâtir quoi que ce soit. Donc vous papillonnez, vous faites un peu de ci, un peu de ça, et puis en fait, il n'y a rien qui reste. C'est des petites touches, mais il n'y a pas quelque chose de construit, de persévérant, de bâti, où on avance, où on progresse, on édifie quelque chose dans sa vie ou avec sa vie. Peu de progrès et une fragilité. Beaucoup de chrétiens sont fragiles parce qu'ils ne persévèrent pas. Et la moindre chose, on dirait qu'ils vont tomber. La persévérance vous fortifie. On le voit avec le corps déjà, avec notre corps. Lorsqu'on fait un effort physique prolongé, répété, persévérant, notre corps s'endurcit, devient plus endurant. Hein, je ne sais pas si vous faites du jogging, par exemple. Lorsque vous n'avez pas fait de jogging depuis 10 ans et que vous y remettez, vous faites 50 mètres et vous dites « j'en peux plus ». Et puis au bout de 5-6 fois ou 10 fois, vous faites 1 km et vous dites « ah, je suis bien, j'en ferai encore un autre ». Bon, le corps a besoin de cette endurance, mais l'âme aussi, plus que le corps encore. Et on n'y pense pas toujours à ça. La persévérance dans l'âme, l'endurance de l'âme, du moral, le mental aussi, hein. Et le spirituel aussi. Il faut persévérer dans la communion, dans l'étude de la parole, dans la prière, dans la communion fraternelle, dans l'amour, on verra aussi, hein, persévérer dans l'amour. Je relis aussi un autre verset, Colossiens 4:12, qu'on a lu tout à l'heure, où il est dit qu'Épaphras vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Donc ça c'est intéressant déjà, Colossiens 4:12. Un homme qui combat pour les chrétiens dans la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il fait dans la prière pour combattre? Je vous laisse un petit peu l'occasion de réfléchir, de dire quelques mots. Comment peut-on combattre dans la prière? Alors, c'est l'intercession, effectivement. Et en quoi c'est un combat, l'intercession? Donc, l'intercession, c'est prier pour les autres, hein, c'est se mettre devant Dieu en faveur des autres. En quoi c'est un combat pour le chrétien? Oui. Alors, oui, ce n'est pas forcément un combat. Ça, c'est plutôt la sympathie, l'empathie, la compassion. Et c'est très important, mais ce n'est pas forcément là qu'est le combat. Oui. Alors le premier combat, effectivement, c'est de penser aux autres et de persévérer pour eux, de lutter pour quelqu'un. Voilà, c'est facile de prier pour soi, de dire oh, « Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça », mais pour les autres, bon, on dit bah, « bon oui, Seigneur, bénis-le ». Mais le combat, c'est vraiment comme si c'était mon frère ou ma sœur le plus cher. Hein, voilà. Oui, quoi d'autre? Tout à fait, le combat et il y a un combat dans la prière, dans l'intercession, parce que il y a un ennemi qui s'appelle Satan, l'ennemi de Dieu. Et quand on prie, on est dans le monde spirituel, hein. On quitte le monde matériel et terrestre, et dans la prière, on entre dans le monde spirituel. Et là, Satan nous attend, hein, sans faire de rime. Et il veut nous empêcher de prier parce que la prière au nom de Jésus-Christ reçoit l'exaucement parce que Christ, hein, est tout-puissant et Satan ne veut pas perdre des batailles, il veut pas qu'on lui vole ses biens et ses âmes, hein, qu'il essaie de dominer. Et donc il va s'opposer à nous. Alors ça peut être par toutes sortes de façons, nous déranger, nous troubler, nous décourager, nous faire peur des fois, ou nous faire oublier. Voilà, on prie une fois pour la personne, puis après on oublie, ou on s'endort, je sais pas si ça vous arrive. Vous êtes là dans la prière et d'un seul coup, vous avez un sommeil, mais terrible, qui vous tombe dessus. D'où ça vient? Ben, d'où ça vient, c'est qu'il y a un combat. Il faut persévérer. Et donc, Epaphras, il combattait pour ses frères et sœurs dans la foi. Et il combattait dans quel but, dit le verset? Voilà, afin que vous teniez bon et que vous dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Il priait pour que ses frères et sœurs dans la foi tiennent bon dans la soumission à Dieu, qu'ils ne lâchent pas, qu'ils ne se détournent pas du Seigneur, qu'ils persistent, hein, dit une autre traduction. Parce que les persécutions, les épreuves, les tentations, les séductions peuvent nous amener à douter de Dieu. Il y a un moment, on peut se dire, est-ce que j'ai vraiment raison de croire? Même il y a des fois, ça vous est peut-être arrivé aussi, alors que ça fait de nombreuses années que je connais le Seigneur, j'ai vu sa main agir, je ne l'ai jamais vu de mes yeux, mais je suis absolument certain qu'il est le Dieu vivant et vrai. Ça m'arrive dans la prière que je doute de l'existence de Dieu. Et je sais que c'était un piège, une tentation. Est-ce que Dieu existe? Et puis après, il faut que je me reprenne, je dis, mais. J'ai mille preuves que Dieu existe. J'ai la création, j'ai le corps humain, j'ai la Bible. Mais il y a ce doute et le chrétien peut être abattu, hein, de différentes façons par des tentations, des séductions ou le découragement. C'est pour ça que Christ a voulu qu'il y ait des églises. Une église, c'est une assemblée de chrétiens. Quand on est rassemblé, on s'encourage. Un chrétien tout seul, mais il n'a personne pour l'encourager. Bon, il a le Saint-Esprit, et s'il est né de nouveau, il a Jésus-Christ dans sa vie, mais il a besoin de quelqu'un qui lui dit, allez, relâche pas, continue, allez, on va prier ensemble, on va se battre ensemble, voilà, on a besoin de cette aide humaine. Et ça, normalement, l'Église, les frères et sœurs doivent l'apporter. Pourquoi la persévérance à obéir à Dieu est-elle si difficile pour nous? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de toujours obéir à Dieu? Je vous pose la question. De persévérer dans l'obéissance. Oui, parce que Dieu a sa volonté, et puis nous, on a notre volonté. Et ça ne va pas toujours dans la même direction. Et quand ça se croise ou se cogne, il faut faire un choix. Est-ce que je vais suivre ma propre volonté ou est-ce que je vais suivre la volonté de Dieu? Naturellement, on va suivre notre volonté, puisqu'on a l'habitude de faire ça. Et un disciple de Jésus-Christ, il apprend à dire, comme Jésus l'a dit, hein, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est Jésus qui a dit ça, hein, le Seigneur. Et c'est-à-dire, non pas ma volonté qui doit prédominer, Seigneur, mais ta volonté. Si tu demandes quelque chose et que ça va à l'encontre de ce que moi je veux faire, ben je vais me soumettre à toi. Mais c'est sûr que ce n'est pas naturel. Ça demande un pas de foi aussi, de dire, mais voyons, si j'obéis à Dieu, ça va bien se passer ou pas? Parce que si j'obéis à ce que moi je pense ou ce que je veux, je pense que ça se passera bien, mais si vous faites le compte, combien de fois on s'est planté, combien de fois on s'est trompé, combien de fois on avait notre volonté, Oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Et puis en fait, on n'aurait jamais dû faire ça. C'était une erreur grave d'aller par là. Alors que ceux qui obéissent à la volonté de Dieu, et là vous pouvez en témoigner, je l'espère, hein, quand on obéit à Dieu, on ne se trompe jamais. Dieu nous amène toujours au bon endroit, au bon moment. Est-ce que vous pouvez témoigner de ça ou pas? Vous êtes d'accord ou est-ce que des fois Dieu vous a amené là où ça a été vraiment catastrophique pour vous? Est-ce que c'était facile de suivre la volonté de Dieu? Non. On est d'accord, hein? Voilà, c'est pas toujours facile. Mais en même temps, à la fin, on se dit, mais Dieu avait raison. Voilà. Et des fois, on est surpris. C'est ça que j'aime bien avec la vie par la foi, c'est qu'on a des surprises dans la vie. On ne s'ennuie pas, hein, avec Dieu. Mais il y a des fois, il faut faire confiance à Dieu, Seigneur, d'accord? Tu conduis. C'est toi qui conduis. Aujourd'hui, avec le GPS, hein, on ne regarde même plus les cartes routières, hein, et on se laisse guider par la voix qui sort de la boîte. Mais la première fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, la première fois que vous avez utilisé un GPS, mais on se dit, c'est pas possible, il ne va pas m'amener. Enfin, j'y crois pas, ça va pas marcher, ça serait incroyable. Donc vous avez la voix, tournez à droite, tournez à gauche, d'accord, mais. Et puis finalement, vous arrivez au bout. Vous ne savez pas comment vous êtes arrivé là, mais vous y êtes. Ça marche. Voilà. Et bon, ça, c'est une machine avec un ordinateur, mais Dieu, il est beaucoup plus intelligent qu'un ordinateur. Il est bon. Un ordinateur, c'est neutre, c'est-à-dire, vous lui mettez des choses dedans et il vous amène là. Mais Dieu est intelligent, Dieu est sage, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est gracieux, il nous aime. Donc on n'a rien à craindre de Dieu. On doit plus craindre le GPS que Dieu, hein? Hein, il y a cet homme qui est tombé dans un lac avec le GPS parce que la carte n'avait pas été mise à jour et l'homme n'a quand même pas vraiment beaucoup réfléchi, hein, franchement. Il a vu qu'il y avait un lac devant lui et le GPS dit allez tout droit et il est rentré dans l'eau. Voilà. Bon. Hein, il est passé aux infos, il était assez ridicule. Ben lui, il avait la foi aveugle, hein, le GPS. Non, mais Dieu est beaucoup plus sage que le GPS, n'est-ce pas? Il sait tout ce qui ne va pas, il sait où vous en êtes, il sait qui vous êtes, ce que vous pouvez supporter ou pas. Mais c'est à nous de lui faire confiance. Ça s'appelle la foi. C'est ça la foi. C'est faire une confiance complète dans notre Dieu. Et ça s'apprend. Ça, c'est vrai que ce n'est pas comme ça du jour au lendemain. Mais pour ça, il faut persévérer aussi. Si chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, on dit « Oh non, 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 c'est trop dur. La prochaine fois, j'obéirai. Hein. » On ne va pas avancer. Il faut commencer par lui faire confiance. La persévérance nous est difficile, n'est-ce pas? Parce que nous avons notre volonté, parce que nous sommes paresseux aussi, naturellement, hein, de nature. Persévérer, ça demande un effort et on n'est pas toujours prêt à fournir un effort, surtout de nos jours. J'aimerais conclure. Comment justement devenir persévérant. Comment devenir persévérant dans l'obéissance à Dieu? Bien, il faut voir la volonté de Dieu non pas comme une loi, comme des préceptes qu'il faut suivre, mais comme la volonté de notre Père qui nous aime. Il faut regarder au Seigneur. Le premier commandement, c'est quoi de la Bible? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Le premier commandement, c'est d'aimer. C'est curieux, hein? En général, nous, on sépare obéir avec aimer. Aimer, c'est une liberté totale, je fais n'importe quoi. Et obéir, alors là, c'est froid, c'est. Non! Dans l'obéissance, il y a l'amour. Et le vrai amour obéit, en fait. Il y a une soumission dans le vrai amour. Et aimer Dieu, c'est ça qui fait qu'on va devenir persévérant. Si vous regardez la volonté de Dieu comme des préceptes ennuyeux et pénibles, évidemment, vous n'allez pas persévérer, parce que qui veut persévérer dans les trucs? Il y a des gens qui ont une forte volonté, hein, ça existe. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Hein. Vous me demandez ce que vous voulez, j'y vais. Mais ceux qui ont moins de volonté, alors, qu'est-ce qu'il leur reste? Non, ce n'est pas par la volonté personnelle, c'est par l'amour pour Dieu. Seigneur, tu m'as racheté, tu es mort pour moi sur la croix, tu as donné ta vie pour moi, alors moi, je veux te suivre. Je veux persévérer avec. C'est un peu comme un homme et une femme. Si j'aime vraiment quelqu'un que je veux épouser, par exemple, je vais persévérer avec cette personne. Je ne vais pas dire je t'aime aujourd'hui et demain on verra si je t'aime encore. On veut persévérer dans l'amour. Ça veut dire un effort, mais un effort consenti, un effort merveilleux. Je suis content de faire cet effort. Hein, on a des fiancés parmi nous. Ils n'ont pas l'air de trop souffrir de persévérer ensemble. Hein. Même s'ils pouvaient passer 24 heures sur 24 à discuter ou être ensemble, ils le feraient. Ils ne souffrent pas, mais quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Et c'est pareil avec Dieu. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, qu'il y a ce verset par lequel nous conclurons. Hébreux 12. Et 2, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Les témoins, là, c'est le chapitre 11 où il parle de tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont persévéré, justement. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Comment courir avec persévérance? Il faut avoir les regards sur Jésus. C'est lui la source de notre foi, c'est lui notre but dans la vie, notre sens à la vie. Et si je regarde à Jésus, je vais persévérer. Si je regarde à moi-même, je vais me décourager. Si je regarde au péché, je vais m'éloigner. Mais si je regarde à Christ, je vais continuer. Là, il parle d'une course, hein, en fait, hein. Il fait une image là des Jeux Olympiques, hein. Je vais jusqu'au bout. Une autre raison, et c'est la dernière, de persévérer, hein, qui nous encourage, c'est se rappeler qu'il y a une récompense pour celui ou celle qui persévère. Même dans la vie séculière, les gens qui réussissent, les gens qui arrivent à quelque chose, ils persévèrent. Ils travaillent. Des fois, il faut travailler des années avant d'obtenir le premier résultat. Des années, personne ne vous voit, vous travaillez dans votre coin, vous vous privez de choses, et au bout de 7-8 ans, ça y est, vous avez votre premier fruit, votre premier résultat. Regardez les agriculteurs, alors aujourd'hui, bon, ils ont que des machines, donc ils ne persévèrent moins qu'avant, mais un agriculteur, il laboure, il sème, et il attend, et il doit persévérer, il ne doit pas se dire, bon, mais qu'est-ce qu'elles font mes tomates ou mon blé, hein? Il doit attendre. Bon, aujourd'hui, même, ils n'attendent plus quasiment, hein, tellement ils ont de manipulations. Mais nous devons avoir cette patience, cette persévérance, parce qu'au bout, il y a un résultat, il y a un fruit, il y a une victoire. Et c'est tellement dommage de rater la victoire parce qu'on n'a pas persévéré. On n'a pas fait le dernier pas. Quand j'étais au service militaire, j'ai beaucoup appris la persévérance et la patience. Quand on faisait une marche de nuit, On a marché toute la nuit, on ne voyait quasiment rien dans la forêt, dans la nature, c'était dans le puits de Dôme. Et nous, tout ce qu'on avait envie de faire, c'était d'aller se coucher. Mais vraiment, c'était même une envie énorme. Hein. Et on avait les lieutenants et tout ça, ils disaient « Allez, on avance, on y va !» Mais quand est-ce qu'on arrive? Vous verrez, et on a tourné toute la nuit. Et puis après, le lendemain, on est reparti. Alors là, on s'était dit, bon, maintenant, on va avoir une semaine de vacances après la marche de nuit. Nous, on trouvait ça difficile. Et non, le lendemain, on repart et on a fait 30 kilomètres. Alors là, on était vraiment claqués. Et en fait, après tout ça, on était en super forme, 2-3 jours après, n'est-ce pas? Et on a compris qu'on pouvait persévérer autant physiquement que mentalement, parce qu'il fallait obéir au chef, hein, donc il fallait y aller. Et quand il y en avait un qui dit « Oh, j'ai mal au pied », on lui prenait son sac, allez, on dit « Vas-y, lève-toi », parce que si on s'arrête maintenant, on n'est pas arrivé à la caserne, hein, on ne va pas se reposer. Donc on avait tous intérêt à arriver, mais on voyait le but. Et quand on arrivait au bout, on était heureux, on avait accompli quelque chose, et c'est encore plus merveilleux dans cette vie de persévérer. Vous verrez, vous êtes capable de persévérer beaucoup plus que vous n'imaginez, d'être plus patient que vous n'imaginez, et Dieu vous récompensera beaucoup. Et Dieu veut vous bénir et vous donner cette persévérance. Que le Seigneur nous aide à justement persévérer dans l'obéissance à sa volonté. On va chanter.